Radio Prague, les informations.
La Cour suprême a annulé la proclamation de la cathédrale Saint-Guy, propriété de l'Église catholique. Nouvelle protestation à Prague contre l'implantation d'un radar antimissile américain en République tchèque. En ski de fond, Kateřina Neumannová a remporté le 10 km style libre à la Coupe du monde de Changchun en Chine. La Cour suprême a annulé la décision du tribunal de Prague 1 et de la Cour municipale de Prague concernant la possession de la cathédrale gothique Saint-Guy au château de Prague. Conformément au verdict rendu par ces tribunaux, la cathédrale avait été proclamée en 2006 propriété de l'Église catholique. À noter que le litige entre l'État tchèque et l'Église pour la possession de la cathédrale dure depuis 14 ans. Une vingtaine d'opposants à l'implantation d'une station radar américaine en République tchèque ont manifesté ce vendredi devant l'ambassade d'Italie à Prague. Cette protestation visait également à soutenir les activistes italiens de Vicenza qui s'apprêtent à protester samedi contre l'agrandissement de la base militaire américaine installée dans cette île. Toujours ce vendredi, l'ambassadeur des États-Unis à Prague, Richard Graeber, a rencontré les maires des communes de la région de Příbram au sud-ouest de Prague où la station antimissile pourrait être construite. Son implantation n'aura aucun impact sur la vie de la population, estime l'ambassadeur américain. Ce week-end se tiendra à Prague le congrès du Parti des Verts, la plus petite formation de la coalition gouvernementale, représentée au Parlement depuis les élections législatives de juin dernier. Une éventuelle restructuration du parti devrait être au cœur du débat. Un nouveau centre de navigation aérienne sera mis en fonctionnement ce week-end à Janec, près de Prague. D'après son directeur Petr Materna, il s'agit d'un des centres les plus modernes en Europe. Il permettra d'augmenter la capacité de l'espace aérien tchèque et de renforcer la sécurité. En 2006, près de 620 000 avions ont traversé l'espace aérien du pays, ce qui représente une augmentation de 3,5% par rapport à l'année 2006. Cedoc a reçu le prix de la meilleure agence de voyage tchèque à la foire pragoise Holiday World. Cedoc a confirmé sa position du leader du marché devant deux autres agences, Esso Travel et Firotour. Projection ce vendredi soir au festival du film de Berlin de « Moi qui ai servi le roi d'Angleterre » de Jiří Mentze en sélection officielle. Le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, devrait assister à la projection. Oscarisé pour les trains étroitement surveillés, Jiří Mentze, 68 ans, a déjà remporté l'ours d'or du festival de Berlin en 1990 pour « Alouette, le fil à la patte ». En sport, la skieuse de fond tchèque Kateřina Neumannová a remporté le 10 km style libre dames à la Coupe du monde de Changchun en Chine. Elle s'est classée devant la Française Karine Philippot et Svetlana Malakhova de Kazakhstan. Côté météo, le week-end devrait être ensoleillé. Samedi, il fera de 3 à 7 degrés, autour de moins 1 à la montagne. Nous fêterons les Miloslava en République tchèque. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Rozinková.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de l'actualité de Radio Prague. Des faits et événements que nous ouvrirons avec les défaillances techniques de l'avion du président de la République en visite au Japon. Heureusement pour Václav Klaus, plus de peur que de mal. Nous entendrons ensuite un entretien sur les centres des mers avant d'évoquer une maquette représentant Prague au début du 19e siècle. Enfin, nous terminerons avec des étudiants belges de passage en République tchèque qui nous livreront leurs impressions. Toute l'équipe de la rédaction française de Radio Prague vous souhaite une agréable réception de nos programmes. Le premier Airbus qui devait remplacer les TU-154 qui transportent les officiels tchèques est arrivé il y a quelque temps à l'aéroport militaire de Gubeli, non loin de Prague. Il semble qu'il soit vraiment urgent de mettre en service de nouveaux appareils car le TU-154 du président de la République en voyage au Japon a encore été immobilisé au sol suite à une défaillance technique. Plus de détails avec Alain Slivinski.
Ce n'est pas la première fois qu'un des appareils qui transporte le président de la République ou des membres du gouvernement tchèque tombe en panne et victime d'une défaillance technique ou d'un grave incident. La flotte aérienne gouvernementale, comme on l'appelle, bien qu'elle soit composée d'appareils appartenant à l'armée tchèque, ne compte pas que des Tu-154, avions obsolètes aujourd'hui, mais aussi des Challenger canadiens. Ces derniers n'ont pas donné satisfaction, car ils ont mis en danger plusieurs fois la vie de l'ancien ministre des Affaires étrangères Cyril Swoboda, en dernier lieu avec un pare-brise endommagé. Le chef de l'État, Václav Klaus, accompagné de son épouse Livia, du ministre des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg, de patrons et de journalistes tchèques, était en visite officielle au Japon cette semaine. Après avoir été reçu et déjeuné avec l'empereur du Japon, le président tchèque devait continuer sa visite à Hiroshima. Il a été obligé de s'y rendre en empruntant les lignes aériennes intérieures japonaises, car son Tupolev 154 a été victime d'une défaillance de sa batterie de réserve et donc cloué au sol de l'aéroport de Tokyo. Mauvaise affaire, car les Tu-154 ne disposent pas d'un service de réparation sur les aéroports mondiaux. Ainsi donc, un autre Tu-154 a dû être affrété de Prague avec des pièces de rechange. C'est à son bord que le retour du président et sa suite s'est effectué. Pourquoi donc ne pas employer le nouvel Airbus déjà à la disposition de l'armée tchèque? Réponse du porte-parole du ministère de la Défense, Andrej Čirtek.
D'après le règlement des forces aériennes, chaque nouvel appareil doit effectuer un entraînement dans l'espace aérien de sa base. Actuellement, le nouvel Airbus est à l'essai dans les environs de l'aéroport de Gbeli, sur de nouveaux trajets, et le personnel au sol se familiarise aussi avec lui. L'Airbus sera opérationnel au mois de mars et transportera donc le président de la République dans peu de temps.
Le nouvel Airbus n'a pas encore reçu de nom, comme il est de coutume dans l'aviation, mais peut-être que les militaires attendent encore l'arrivée du second Airbus au mois de septembre 2007 pour les baptiser tous les deux. Quoi qu'il en soit, l'introduction des Airbus plus modernes, consommateurs de moins de carburant et bénéficiant d'un vaste service d'après-vente dans le monde, conduira à une importante économie du trésor public, à commencer par les 70 000 euros du coût de l'envoi d'un Tu-154 de rechange à Tokyo cette semaine.
Les centres pour mères fêtent les 15 ans de leur existence, une occasion pour dresser un petit bilan avec Ruth Kolinska, leur fondatrice.
En 1992, Ruth Kolinska, elle-même mère de 5 enfants, a eu l'idée de fonder un premier centre pour mères qui sont en congé de maternité. Aujourd'hui, ils sont 197 ces centres dans toutes les régions de République tchèque. Ils sont créés en principe par les mères elles-mêmes, dit Ruth Kolinska.
Ils sont praktickou ukázkou podpory rodiny, partnerských vztahů. Myslím si, že všichni moc dobře.
Les centres pour mères sont une illustration pratique du soutien apporté à la famille aux relations entre partenaires. L'année dernière, nous avons organisé une conférence sur le thème être normal et aujourd'hui un handicap. On a voulu dire par cela que rester ensemble pendant plus longtemps cesse d'être normal aujourd'hui où tout est à usage unique. Nous avons voulu montrer qu'il faut soigner les relations, les édifier sans cesse, et les centres sont peut-être un moyen pour que les partenaires restent ensemble. Comme on peut le lire dans les documents des centres pour mères, leur sens est de renforcer la famille, les valeurs qui sont liées, améliorer les conditions et la protection juridique de la famille. Les femmes qui sont restées à la maison avec leurs enfants savent bien de quoi on parle, dit Ruth Kolinska.
Matka s dítětem, která zůstává dlouho doma,
la mère qui reste avec ses enfants seule pendant toute la journée éprouve le sentiment d'un isolement social. Elle est seule pour assumer tout le bonheur et tous les soucis que les soins à l'enfant apportent. Et les centres pour mères sont là justement pour donner l'occasion aux mères de se parler, de partager les problèmes, échanger les expériences. C'est le premier rôle des centres, le deuxième, d'impliquer davantage le partenaire, le père, dans ses soucis quotidien pour qu'elles comprennent pourquoi les femmes vont dans ces centres, pourquoi ils sont nécessaires.
Pourquoi tam chodí? To té snahy, pochopení smyslu materských center.
Pour fêter leurs 15 années d'existence, les centres pour mères préparent une série de campagnes réparties sur toute l'année 2007 pour mieux informer l'opinion de leurs activités. Leur fondatrice, Ruth Kolinska, n'a pas quant à elle besoin d'être présentée. En 2003, elle a été nommée Femme d'Europe 2003 à Copenhague. Václav Havel l'a citée comme excellente candidate à la présidence du pays et en 2005, Ruth Kolinska s'est vu attribuer le titre de meilleure patronne du secteur non lucratif.
C'est grâce au petit employé de la bibliothèque universitaire Antoni Langweil que nous savons comment était Prague dans les premières décennies du XIXe siècle. Miniaturiste, dessinateur et modeleur habile, Antoni Langweil a créé entre 1826 et 1837 un modèle unique qui représente Prague avec ses maisons, ses rues et ses places jusqu'aux plus infimes détails. Ce portrait unique d'une ville se trouve aujourd'hui au musée municipal de Prague et attire d'innombrables visiteurs. Aujourd'hui, pour le rendre accessible à tous, on procède à la création de sa reproduction virtuelle.
La numérisation du modèle Langweil sera un processus bien compliqué, mais elle permettra aux spécialistes et au public d'étudier en profondeur et d'apprécier à sa juste valeur le chef-d'œuvre d'Antonin Langweil. Le maire de Prague, Pavel Bem, souligne la valeur historique et documentaire du modèle, due notamment à son extrême précision.
C'est une œuvre qui nous offre aujourd'hui une image unique et un miroir de Prague. La vieille ville et le ghetto juif, le quartier de Malastrana, le château de Prague, au total plus de 2000 maisons dont la moitié n'existe plus. Ce modèle détaillé, élaboré sur 25 mètres carrés, est aujourd'hui un outil exceptionnellement attractif pour des architectes, des urbanistes, des spécialistes de protection des monuments historiques, pour tous ceux qui cherchent à protéger la ville ou à le lui redonner, lors de différentes reconstructions, son aspect de jadis. Et bien sûr, c'est aussi une attraction extraordinaire pour les visiteurs du musée.
A samozřejmě je také mimořádnou atrakcí pro návštěvníky muzea.
La Prague d'Antonin Langweil est bâtie de carton et de bois et représente la capitale de la Bohème à l'échelle de 1 à 480. Si l'on veut se promener dans les rues et les recoins de cette ville miniaturisée et reproduire tous ces détails, il faut élaborer une méthode spéciale. Tomáš Petrů de la société Visual Connection, chargé de réaliser le projet, précise.
Co se týče řekněme nejmenších objektů, které bychom chtěli zachytit, tak jsou velikosti.
Pour ce qui est des plus petits objets que nous aimerions reproduire, ils ne dépassent probablement pas un millimètre cube, comme par exemple les stèles dans le cimetière juif de la vieille ville. En ce qui concerne la technique de reproduction, nous ne disposons pas peut-être de la technique la plus sophistiquée qui existe. Nous ne pouvons pas rivaliser par exemple avec la NASA, mais nous utilisons des appareils à une définition de 16 millions de pixels. Pendant le travail, nous allons liquider trois appareils de ce genre parce qu'il faudra prendre un demi-million de clichés et la mécanique de ces appareils finira par se désagréger.
Třikrát rozpadne, těch fotografií bude bratrů půl milionu.
Pour réaliser ce travail de fourmi, on utilisera non seulement des caméras miniaturisées, mais aussi des robots minuscules. La ville, avec ses palais, ses églises, ses maisons bourgeoises, ses jardins et le dédale de ses rues, revivra de nouveau et on sera invité à y faire une promenade virtuelle. Les réalisateurs de cette numérisation envisagent d'ores et déjà de créer des jeux vidéo qui permettraient d'animer ce petit univers par tout un peuple de petits Pragois en costume de 1830.
Un groupe d'étudiants belges de la Haute École de Brouckère a récemment visité les locaux de Radio Prague. Se rendre pour une semaine à Prague est une tradition qui n'est pas nouvelle dans cet établissement. Alena Gebertova a retenu l'explication de Monsieur Jacky Chantraine, directeur de la catégorie économique.
Il y a déjà plusieurs années que nous venons à Prague en voyage d'études. Prague est une ville merveilleuse. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire avec les étudiants à la fois un voyage culturel, voir la place de la vieille ville, voir le château de Prague, voir le musée Mouka notamment, et le camp de Térésine. Et pour le reste, nous leur demandons de faire des travaux pratiques sur la Tchéquie dans la technique du marketing et de la publicité. Par exemple, décrire ce que Alfons Mouka a fait en publicité, et visiter des supermarchés établis en Tchéquie comme Tesco et Carrefour.
Et comment Prague est-elle perçue par les étudiants eux-mêmes? Une confession de Julien Edenrix et d'Avri Beabdil.
Prague, c'est surtout connu pour, je dirais, entre guillemets, une ville carte postale. Donc, c'est une destination romantique. Mais je crois qu'il faut prendre le temps de découvrir et que derrière cette image, il y a toute une histoire. Il faut prendre le temps de connaître ce qui s'est passé ici, vraiment l'histoire, comment ce pays s'est relevé de justement de la Tchécoslovaquie, et voir que c'est pas si facile, je pense, de changer de régime politique, quoi. Et je pense que ça se ressent, et je pense que le peuple tchèque est dans la bonne voie pour rentrer dans l'Europe. Elle y est déjà, mais ça se fait pas en quelques années. Donc j'ai vraiment découvert une ville et en même temps un pays, parce que je pense que Prague doit être représentatif de la Tchéquie sans vraiment être sorti d'ici. J'ai appris beaucoup de choses sur un petit peu l'histoire des pays de l'Est. Bon, j'imagine qu'elle est beaucoup plus compliquée. Il y a d'autres histoires qui sont passées dans d'autres pays voisins. Mais c'est vrai que celle-ci m'a beaucoup plu.
Prague, est-ce une ville plaisante pour vous?
J'ai été très étonné, surpris quand j'ai vu les bâtiments, qui sont très propres. Lorsque je suis rentré à l'intérieur, c'est très, 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 très bien entretenu, comparé aux autres pays où les églises sont vraiment en état de ruine. Je pourrais dire que, bon, même si c'est pas exagéré, on peut dire que c'est la Venise ou la Rome, le Rome de l'Europe de l'Est, quoi.
Voilà, c'est donc avec Prague, Rome d'Europe de l'Est que se referment ces derniers faits événements de la semaine. Merci de votre attention, mais restez encore un instant en notre compagnie pour la suite économique de notre programme.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous. Notre invité aujourd'hui dans cette émission économique est Michel Auribeau, gérant d'une société basée à Prague et spécialisée dans le conseil aux entreprises françaises désireuses de s'implanter en République tchèque. Alors Michel Auribeau, bonjour. Vous êtes le gérant de cette société qui s'appelle ABI Business Centrum et qui est spécialisée dans l'accueil d'entreprises étrangères en République tchèque et en Slovaquie, en conseil on peut dire. Pour quelles raisons est-ce que vous inciteriez un entrepreneur français à s'implanter en République tchèque?
Eh bien, je l'inciterais pour les mêmes raisons qui m'ont poussé moi-même à revenir dans ce pays, puisque j'y étais présent une première fois de 1991 à 1994. J'étais alors à l'ambassade de France. Et donc, je suis revenu dans ce pays, bien parce que, contrairement peut-être au pays d'où je viens, c'est-à-dire la France, on y est encore en mesure d'engager des actions et de trouver un dynamisme et des créneaux d'ouverture qui sont plus difficiles à discerner en France. Je dirais que le marasme qui touche une partie de l'économie française n'a pas encore sévi ici, n'a pas encore frappé. Moyennant quoi, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour. Donc aujourd'hui, je conseille effectivement à beaucoup d'entreprises françaises ou francophones, puisque j'ai aussi des clients qui sont belges et luxembourgeois, de venir dans ce pays, bien parce que ils y trouveront des moyens de diversifier leurs activités, peut-être de sauver certains pans de leur économie ou de leurs activités qui ont des problèmes en France, simplement peut-être pour des raisons de compétitivité, de différentiel des coûts de la main-d'œuvre, mais aussi parce que dans ce pays, il y a des compétences évidentes et traditionnelles dans des secteurs très classiques comme la mécanique, la métallurgie, la plasturgie, et puis dans des domaines beaucoup plus avancés, comme l'informatique, comme l'électronique, l'impression de qualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le domaine notamment de l'impression, eh bien nous sommes en train de conquérir quelques marchés pour des maisons d'édition françaises qui, après s'être tournées vers les Allemands, les Italiens ou les Espagnols, commencent à trouver en République tchèque un certain intérêt pour faire réaliser leurs éditions.
Alors on peut dire que vous faites partie de ces gens qui poussent à la délocalisation, ce qui crée des polémiques en Europe occidentale en quelque sorte.
Alors on peut dire effectivement que je suis une personne qui contribue à la ruine de l'économie française modestement quand même. Mais il faut aussi voir la vérité. Je pense qu'il ne faut pas voir la délocalisation avec tout ce qu'il y a de négatif derrière ce terme. Il faut voir en fait que pour certaines entreprises françaises, il n'y a pas d'autre solution que de se délocaliser ou que de diversifier certaines de leurs activités ou pans d'activités, pas forcément l'entreprise dans son ensemble, mais une partie de ses ateliers ou une étape de la fabrication en République tchèque, pour peut-être permettre au reste de l'entreprise de continuer à survivre.
Alors, quels sont les principaux pièges à éviter lorsqu'on veut s'implanter en République tchèque ?
Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas beaucoup de pièges, il y a simplement à procéder très calmement, à aborder le pays avec un certain calme, pour ne pas dire une certaine retenue, de façon à prendre le temps de bien identifier ce que représente une activité, celle qu'on vise dans le pays, en identifier les acteurs principaux, et ensuite essayer de se rapprocher de ces acteurs sans donner l'impression d'être pressé. C'est-à-dire engager des pourparlers ou des contacts en prenant le temps de découvrir, de se faire connaître, mais aussi de découvrir les interlocuteurs, de savoir que bien sûr, lorsque l'on vient, on souhaite en général réaliser des économies d'échelle, pour ne pas dire des économies tout court. Eh bien, il faut se dire que de l'autre côté, il y a un niveau de vie qui augmente. Donc il y a forcément, quel que soit le devis qu'on va vous faire, aujourd'hui il est plus intéressant que dans un an. C'est d'ailleurs les problèmes que je rencontre avec une grande partie de mes clients qui ne comprennent pas les augmentations successives qui sont faites pour des devis portant sur des mêmes activités ou des mêmes quantités de volume. Bon, j'ai aujourd'hui un cas concret, aujourd'hui même, d'une société qui me dit, Monsieur Ribaud, le prix de l'acier, certes, il a augmenté depuis un mois, mais pas de 40%. Bon. Alors, il faut voir que le prix de l'acier a augmenté un petit peu, que le prix des charges sociales, le prix des salaires, le niveau de la vie augmente en République tchèque beaucoup plus vite qu'en France. Et donc, ça, c'est le plus difficile peut-être, faire comprendre aux entreprises françaises que l'intérêt de ce différentiel qui existe entre les deux économies est un écart qui va aller en se réduisant et que donc, pour elles, il sera de moins en moins intéressant. Mais, je pense que nous avons encore 15 à 20 ans devant nous avant que les deux économies se rattrapent et aient le même niveau. Donc, dans les 20 années qui viennent encore, il y a certainement de belles choses à envisager. Pas forcément, d'ailleurs, uniquement dans les domaines de la sous-traitance. Je pense que les entreprises françaises ont plus que jamais intérêt à trouver et à nouer des partenariats. C'est ce que nous essayons maintenant de les aider à faire, c'est-à-dire dépasser le cap de la simple commande d'ouvrages, de tubes métalliques, de pièces mécaniques de précision, et plutôt inciter les entreprises françaises à identifier ce qu'elles peuvent apporter à une entreprise tchèque. C'est souvent effectivement un support financier, mais c'est aussi parfois certaines compétences dans des domaines bien précis. Et donc, accompagner l'entreprise tchèque dans un développement qu'elle n'aurait pas pu faire toute seule. Bon, sachant que la France reste au niveau international européen un petit pays par rapport aux grands que sont notamment l'Allemagne, mais d'autres puissances comme les puissances italiennes, espagnoles, qui restent assez puissantes sur la zone. Je pense notamment aux Italiens qui me semblent très 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 présents, je les vois partout dans les domaines immobiliers.
Est-ce que les entrepreneurs français ont mauvaise réputation ici ?
Alors, là vous touchez un point particulier, parce que, bon d'abord, je pense que je connais un petit peu la question, j'ai plusieurs retours. Alors, patriotiquement parlant, je dirais, il n'y a pas de raison, au contraire. Les liens qui unissent la France à la République tchèque sont historiquement des liens qui sont pérennes depuis plusieurs années, siècles.
Alors ça c'est patriotiquement, maintenant pratiquement.
Dans la réalité quotidienne. Bon, je dirais que mes compatriotes, là je vais me mettre dans le rôle de l'avocat de la défense, manquent peut-être d'agressivité, sont un petit peu timorés lorsqu'ils viennent, ont tendance à vouloir le beurre et l'argent du beurre, et donc ne font pas toujours preuve du dynamisme qu'on pourrait espérer lorsqu'on se trouve en position d'intermédiaire.
Alors ça c'est pas être timoré, c'est être arrogant quand on veut le beurre et l'argent du beurre.
Alors, lorsqu'on veut le beurre et l'argent du beurre, c'est qu'on est ambitieux. On peut dire arrogant, mais on peut dire ambitieux. C'est aussi qu'on a des problèmes, donc on tient à les régler. Mais non, je pense que les entreprises françaises passent plutôt bien dans les contacts qu'elles ont avec les entreprises tchèques. Et malgré tout, je pense qu'elles ont besoin d'être conseillées dans les entretiens, justement pour ne pas paraître, ce que vous avez dit, à savoir trop arrogante. Parce que je ne pense pas qu'elles soient arrogantes, et néanmoins, elles connaissent mal les us, les coutumes, les mentalités. Et de ce fait, certains comportements peuvent passer pour une trop grande assurance, une trop grande confiance en soi.
Voilà, et c'est déjà la fin des émissions en langue française de Radio Prague. Merci encore une fois de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions à l'adresse suivante www.radio.cz. Sinon, rendez-vous dès demain, même heure, même fréquence. Ahoy.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10.